UTMB, 20 ans de passion.
Un défi contre moi-même.
Galère.
Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut que je finisse. Parce que faut que je finisse ce que j'ai commencé en cas fond.
Les cailloux, oui. Il faut être fou pour faire ça.
Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Rien ne prédestinait Mathieu Blanchard à laisser sa trace dans les sentiers de montagne et à devenir l'un des sportifs les plus inspirants du trail running. Il a passé son enfance dans les îles, les pieds dans l'eau, et c'est à 29 ans qu'il se décide à enfiler des baskets. 2 ans plus tard, il est sous l'arche de départ de l'UTMB à Chamonix. Pour sa première participation, il finit 13e au classement général. Depuis, il est entré dans la légende du trail en terminant 2e de l'édition 2022, derrière un certain Kylian Jornet, et sous la barre des 20 heures. Considéré un temps comme l'outsider, il n'a plus rien à prouver, il fait définitivement partie des plus grands. Salut Mathieu.
Salut Mathilde.
Je suis ravie de t'avoir en face de moi pour cet échange autour de la course légendaire qu'est l'UTMB. Et d'ailleurs, légendaire, est-ce que tu valides le terme ?
Ouais, c'est légendaire parce que il y a les plus grandes légendes en tant qu'athlètes qui y sont passées. C'est légendaire par rapport aussi à ce symbole qui est le Mont Blanc, hein, le toit de l'Europe, qui domine un petit peu notre pays, même s'il a cheval sur d'autres pays aussi. Donc ça, c'est assez légendaire aussi. C'est légendaire par les histoires qui s'y sont passées à travers les temps. Voilà, c'est sûr que quand on part sur une si longue aventure, il s'en passe des choses. Donc ouais, je pense que le terme légendaire est bien approprié.
On va attaquer cet échange par une question qui sera rituelle pour tous les interviewés, qui est assez simple. C'est si tu devais garder qu'un seul souvenir de la course, toute participation confondue, ce serait quoi ?
Ouais, c'est difficile, hein. Moi, j'ai fait 3 UTMB, une CCC, donc j'ai déjà 4 relations avec ces parcours-là. C'est difficile, mais c'est sûr que cette dernière UTMB 2022, avec ce combat, si je peux l'appeler comme ça, avec cet athlète qui est Kylian Jornet, qui m'a beaucoup inspiré et avec qui je me retrouve, ce que j'aurais jamais imaginé à compétitionner sur cette course légendaire, reste un souvenir très très fort qui m'a donné beaucoup d'émotions les mois qui ont suivi. Et encore aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai réussi à avoir les poils qui s'irisent. Donc c'est sûr que ça m'a marqué. C'est peut-être le souvenir le plus fort, même s'il y en a d'autres qui sont extrêmement forts.
Ouais, j'imagine que c'est ce genre de sensation que tu viens chercher sur ce type de course.
Ouais, 100%, hein, c'est ce qui intensifie un petit peu mon existence. Hein. Je me sens un petit peu moins vivant, un peu moins dans la vibration quand je suis dans mon canapé devant un Netflix que quand je suis sur des sentiers comme ceux de l'UTMB, des heures improbables, sous des conditions climatiques improbables, avec des dénivelés improbables, et puis ça me fait vibrer. Ouais.
Mathieu Blanchard.
Et il finit comme un boulet de canon, il devrait pas faire moins de 21h, mais moins de 20h. C'est juste extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser et cette fabuleuse deuxième place.
Second place of the UTMB.
On va retracer un petit peu ton parcours rapidement parce que comme je le disais en introduction, tu as grandi en Guadeloupe, donc plutôt les pieds dans l'eau. Le sport, il tenait quelle place dans ta vie de tous les jours ou dans ta culture familiale ?
Alors, je ne sais pas si on peut appeler, si le mot sport est approprié par rapport à la culture familiale. Je pense que c'est plutôt le plein air, des aventures en nature. Alors c'est sûr que j'ai grandi en Guadeloupe, les pieds dans l'eau, parce que mes parents avaient un club de plongée là-bas, donc c'est vraiment le milieu naturel de l'océan qui était central. Mais je me souviens aussi qu'on prenait nos sacs à dos pour aller crapahuter dans la jungle des Caraïbes ou sur les volcans. Et donc voilà, c'est tout ça la place qu'avait le sport, en plus voilà, d'une activité extérieure, plus qu'un sport à proprement parler, cadré, d'endurance. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'ai appréhendé, le sport plus jeune, plus vraiment dans l'expérience et le plaisir que dans la performance.
Ok. Et donc tu grandis, tu fais des études d'ingénieur et tu finis par t'expatrier à Montréal. Et c'est là que tu as commencé à courir en 2014, si je ne m'abuse.
Exactement, j'ai déménagé à Montréal en 2014 et pas plus tard que 3 mois après avoir posé mes valises sur ce territoire nord-américain, au Québec, que j'ai commencé à courir, voilà, pour des raisons assez banales au début, qui étaient simplement de me remettre un petit peu en forme.
Et t'as tout de suite accroché ?
Non, comme tout le monde, j'ai pas tout de suite accroché. Y a rien de plus ingrat que la course à pied, parce qu'il n'y a pas d'excuses là. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de ski qui glisse pas vite, il n'y a pas de vélo avec les roues crevées. C'est seul avec soi-même. Donc là, on prend une grosse claque quand on se rend compte que notre corps finalement est un petit peu rouillé et pas à même de faire ne serait-ce que 3 km autour de chez soi. Quand on a 26 ans, on prend une claque. Mais au moins, ça fait prendre conscience qu'il était temps de s'y remettre un petit peu et qu'à 26 ans, on doit quand même être capable de courir plus de 3 km autour de chez soi sans être essoufflé ou sans avoir envie de vomir ou sans avoir 4 points de côté. Donc, ouais, c'était pas facile au début.
En tout cas, tu l'as vécu comme ça. Et qu'est-ce qui a créé l'étincelle ? Qu'est-ce qui a fait que t'as accroché ?
Mais je pense qu'au tout début, c'est vraiment la claque qu'a pris mon ego. Hein. Justement, c'est ce que je disais. De se dire qu'on a moins de 30 ans et qu'on n'est pas capable de courir 5 km, franchement, ça
c'est vraiment ce côté, non mais ça, je ne peux pas rester dans cet état-là.
Ouais, je ne peux pas être aussi pourri à mon âge, ce n'est pas possible. Quoi. Je suis en santé, je ne suis pas malade, j'ai juste un petit peu trop fêté et pas trop pris soin de mon corps avec l'activité physique, mes années d'études et de début de carrière d'ingénieur. Et voilà, je me suis dit, non, là, Mathieu, il faut que tu t'y remettes. Et puis, c'est ce qui m'a un petit peu créé la première étincelle de pousser un petit peu plus à travers cette douleur de base qui était cet essoufflement et ces points de côté. Mais après, il y a eu une deuxième étincelle, en fait, ça a été de s'inscrire finalement à une course, ce que j'avais jamais fait. Puis, ça a créé un déclic à moi. Peut-être que j'avais, au fond de moi... Finalement, une personnalité de performance. Puis le fait de savoir que j'allais faire une course, ça m'a vraiment motivé et mis une seconde étincelle qui m'a poussé à courir, à pousser un petit peu plus.
Et tu te présentes à ton premier UTMB en 2018, moins de 2 ans après avoir commencé à courir. T'étais motivé, t'étais chaud.
Ouais, c'est allé assez vite. C'est vrai que je commence le trail fin 2016. Donc, moi, je n'avais jamais entendu parler de UTMB et de Kilian Jornet en fin 2016. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Et c'est sûr que quand je l'ai découvert dans l'hiver 2016-2017, je me suis dit que j'allais faire ça, quoi. J'avais envie de faire ça. Enfin, au début, c'était vraiment un rêve. Je voyais ça avec des étoiles. J'avais un peu peur aussi. Je me disais, est-ce que les gens qui font ça sont schizophrènes ? C'est quoi leur problème, là ? Comment c'est possible d'aller se faire aussi mal sur de telles distances ? Je voyais même ça de manière quasiment impossible. Mais après, c'est sûr, quand j'ai creusé, j'ai compris que c'était des personnes qui s'entraînaient énormément et qui avaient un mode de vie qui leur permettait de faire de telles courses, de telles aventures. Et donc, voilà, j'en ai fait une petite obsession et j'ai tenté d'aligner les étapes et les jalons pour pouvoir aller faire un premier UTMB le plus vite possible, puisque c'était un petit peu le Graal. À refaire, je ne ferais pas comme ça, parce que c'est sûr que j'ai fait trop de volume, trop d'entraînement, trop vite. Puis j'étais souvent dans la douleur, souvent dans la fatigue. Ce n'était pas un cheminement très agréable.
Pas très sain, selon toi.
Oui, ce n'est pas très sain. Ouais. Mmh. Et puis à refaire, je me prendrais un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que je suis allé sur le site de l'UTMB et il disait qu'il fallait À l'époque, c'était quoi? Il fallait avoir un certain nombre de points pour pouvoir s'inscrire à la course. Et dès 2017, en fait, j'étais parti aux États-Unis, dans le Vermont, faire un 100 miles. Donc, mon tout premier 100 miles en juillet 2017, Vermont 100. Donc, j'ai fait la course, je l'ai terminée. Et ce qui m'a permis d'avoir les points, de m'inscrire à l'UTMB fin 2017. Et il me semble que j'avais couru le Vermont assez vite aussi pour que mon classement ITRA soit assez élevé, pour pas passer par la loterie.
C'est donc, exactement la question que j'allais te poser.
J'ai eu de la chance.
J'ai dit première inscription,
Dès la première inscription, j'ai été pris tout de suite parce que mon classement ITRA me permettait de passer au-dessus de la loterie, enfin à travers la loterie. Sans... Et puis voilà, donc j'ai pu... avoir un dossard pour l'UTMB dès 2018, donc effectivement, assez vite. Ouais.
Et d'ailleurs, justement, tu disais, tu en as entendu parler en 2016, et comment tu en as entendu parler de l'UTMB?
Tout simplement, sur un moteur de recherche, j'ai tapé Ultra Trail, course, et puis effectivement, l'UTMB est arrivé assez rapidement dans les résultats de recherche. Et donc, j'ai commencé à avoir des vidéos là-dessus, à m'inspirer, c'est comme ça que c'est arrivé.
Et donc, le temps maximum pour boucler la course, c'est 46 heures et 30 minutes. Toi, t'arrives avec un chrono en tête ou t'arrives en mode « on verra » ?
Non, pas du tout. J'ai zéro chrono en tête. C'est sûr que cette distance-là, je ne l'avais jamais faite. 172 km, c'était très très long. Le plus long que j'avais fait, ben, finalement, c'était un 100 miles, 160. C'est pas très loin, mais ça fait quand même une différence. Et surtout, j'arrive de Montréal, j'arrive du Québec où je suis encore ingénieur et où j'ai pas non plus le temps de partir des semaines m'entraîner en montagne. Donc, faut savoir que le Québec, c'est quand même une région où il n'y a pas de haute montagne. La plus haute autour de chez moi, qui est le Mont Tremblant, doit faire 800 mètres de haut. Donc, c'est sûr que pour préparer un UTMB, c'est pas l'idéal. On n'a pas l'altitude, on n'a pas les gros dénivelés. C'est sûr qu'on peut faire des répétitions de pente, mais c'est vite barbant. Et donc, voilà, j'arrive sur l'UTMB plus avec une optique d'être capable d'aller au bout, de finir, ce que, à ce moment-là, je doute que de faire un temps. Mais je me souviens que, comme j'avais choisi ma maman pour faire mon assistance, j'avais quand même pris... je sais même plus comment j'avais fait, quel temps j'avais pris, hein, mais j'avais pris des temps approximatifs pour lui dire, bah, il faut que tu sois là à telle heure pour pas qu'elle passe non plus des heures et des heures à m'attendre. Et voilà. Donc, j'avais fait un petit tableau de temps, mais j'ai aucune idée de comment je l'avais créé, en fait. Peut-être que je m'étais calé sur un
Kylian.
Non, mais sur un temps approximatif de la 50e place qui devait peut-être faire, 25, 26 heures à peu près. Et c'était comme ça que je l'avais préparé.
Tu te rappelles de ton temps ?
Le temps en 2018, je pense que c'est proche de 24 heures, mais je ne me rappelle plus exactement.
23 heures et 53 minutes.
Ouais, pas mal, ouais.
C'est ça. 13e place.
Exact, ouais.
Une autre spécificité de ton arrivée, sans gros entraînement montagnard et sans connaître la course finalement très très bien, c'est que tu la termines avec ton petit frère.
Ouais, ça c'est un énorme souvenir aussi. C'était dans mon top souvenir de cœur de cette course. Voilà, le petit frère qui avait eu un grave accident de la route 6 mois avant l'UTMB. Et donc, on s'était donné pour défi commun d'être ensemble à cette course, moi pour la finir, lui pour m'aider sur les ravitaillements et surtout courir avec moi les derniers mètres de la course. Et donc, voilà, c'était aussi un défi que je lui avais donné pour qu'il tente de se sortir le plus rapidement possible de tous ces hôpitaux et tous ces centres de rééducation dans lesquels il était. Ça lui donnait, quelque chose à suivre dans sa rééducation, pas simplement marcher, courir pour rien. Il y avait vraiment un but, quelques mois plus tard, qui arrivait.
Il était jeune.
Il avait 15 ans, donc milieu de l'adolescence. Et donc, ouais, c'est un souvenir très très fort, cette ligne d'arrivée avec le petit frère.
Voilà, avec son frère, quelle belle image. Voilà, qui court celui de Jean-Le Frangin qui l'accompagne. Bien joué, Thomas. Allez, vous l'avez un premier applaudissement. Allez, parti.
Mais du coup, pourquoi tu as choisi l'UTMB pour vivre ce moment-là avec lui? C'est personnel comme moment.
Ouais, c'est sûr que... en fait, je savais que l'UTMB, c'était une course qui était très, très suivie médiatiquement. Et mon petit frère a quand même... Enfin, c'est le milieu de l'adolescence. C'est dur, là. Quand on est enfant, on est très dur. Je me souviens, quand j'étais jeune, à l'adolescence, on arrivait avec les chaussures qui n'étaient pas à la mode au collège ou au lycée. On se faisait montrer du doigt. On est très, très dur, je trouve, quand on est dans ces âges-là. Parce qu'on est en développement de notre personnalité, dans la transition vers la vie d'adulte. Et puis, franchement, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est terrible. Et... quand tu es adolescent et que tu subis un accident et que tu deviens handicapé. Moi, je me souviens qu'on était ados, on se foutait de la gueule des handicapés, on se foutait de la gueule des gens pas normaux, on se foutait de la gueule des gens qui sortaient du cadre, en fait, ce qui est terrible. Et donc, le fait qu'il devienne handicapé, j'imagine qu'il a eu des regards très pesants de ses amis à l'école. Et donc, il s'est un petit peu refermé sur lui-même à ce moment-là. Voilà, rester un petit peu plus à la maison, enfermé, à cacher aussi son handicap sous des pantalons et des joggings. Et là, à l'UTMB, c'est la première fois depuis son accident où il court, où il met un short, en fait, où il montre sa prothèse. Et le fait qu'il y avait beaucoup d'appareils photo, de monde, ben, c'était aussi un choix volontaire pour qu'il casse un peu son déni, là, et donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai choisi cet événement-là, pour que lui aussi, pour l'aider aussi à passer à travers ce moment de déni qui était un peu flottant et long, quoi. Après la course aussi, il a eu des sollicitations lui aussi médiatiques de journalistes qui voulaient échanger avec lui. Et puis, à travers les questions, on lui disait ouais, c'est beau ce que ça fait, ce que tu as fait, c'est inspirant. Et il a reçu derrière, une fois que les articles étaient sortis, des messages d'inconnus ou d'amis qui disaient ouais, c'est super ce que tu as fait, même moi, je suis dans mon canapé, j'aurais pas osé aller faire ça et tout. Donc, c'est beau ce que tu fais. Et finalement, il y a eu un avant et un après, quoi.
Tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure des craintes et des choses que tu avais en tête quand tu as attaqué ton premier UTMB. Là, tu en es à 3 participations. Et du coup, aujourd'hui, tu as quel genre de crainte, de doute quand tu t'es lancé?
Ben, c'est sûr que la course, ces courses-là, en fait, c'est tellement... Il y a tellement de paramètres qui peuvent entrer en jeu qu'on ne peut jamais réciter sa partition sur une course comme ça. C'est pas comme, je sais pas... Je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Un pilote de Formule 1, je pense que ceux qui ont beaucoup d'années d'expérience, ils pourraient faire les circuits quasiment les yeux fermés. Et sauf que nous, ben en fait, d'une année à l'autre, il va y avoir des conditions météorologiques qui vont évoluer. Il va y avoir notre corps d'une année à l'autre qui va évoluer aussi, dépendamment dans l'année comment on a dormi, comment on a mangé. On va changer notre microbiote interne, par exemple, dépendamment du régime alimentaire qu'on a eu dans l'année. Ce qui fait que peut-être que la nutrition sportive qu'on a pris l'année ne marchera pas l'année d'après. Et bon, là, c'est un exemple, mais il y en a tellement qui fait que c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que j'ai toujours une crainte à quelle sauce je vais être mangé, quoi, sur cette course.
Quelle course t'as fait aussi dans l'année?
Et quelle course t'as fait? Et puis, comment le corps a évolué? J'ai fait des entraînements différents. Est-ce que je suis toujours aussi bon en descente, en montée? Donc, il y a ça. Et puis, c'est sûr que j'ai fait 3 UTMB. Puis, mes 3 UTMB ont toujours été de mieux en mieux, de plus en plus vite. Ce qui fait qu'il y a aussi maintenant toute cette attention et sollicitation, pour pas dire pression médiatique, qu'il faut gérer également, et qui joue beaucoup dans la force mentale et dans le conditionnement pré-course. Donc, ça fait que grossir. Donc, c'est sûr que moi, mon prochain UTMB, va falloir que je prenne ça aussi en compte, pour voilà, réussir à me mettre dans ma bulle d'une manière ou d'une autre pour gérer. Et puis ça, c'est une grosse crainte que j'ai, parce que je donne quand même beaucoup. J'ai du mal à dire non. Et voilà, maintenant, c'est ça aussi qui me fait peur. Après, voilà, j'ai trouvé des techniques, c'est de m'entourer aussi d'équipes, de personnes qui vont pouvoir gérer ça pour m'alléger l'esprit.
Et d'ailleurs, justement, le pendant de ces craintes, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie sur une course comme l'UTMB? C'est le public, c'est tes proches, c'est...
Bon, déjà, en tout premier, c'est le défi, la hauteur du défi. Hein, on ne s'y habitue pas. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la distance me fait plus peur. mais c'est à quelle vitesse on va faire cette distance-là qui fait peur. Donc, ça reste quand même des gros défis. Quand on est compétiteur et quand on est en progression, on veut toujours faire mieux. Hein, donc, ça, c'est sûr que ça, ça fait vibrer énormément et ça donne énormément d'énergie de se lancer sur un gros défi. Maintenant, après, c'est sûr que notre communauté n'est pas non plus énorme. Hein, ça reste un microcosme. Et quand on a fait des beaux résultats, on commence à être reconnu pour les réussites qu'on a pu faire. Et donc, c'est sûr que quand on entend des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes scander votre nom au bord des sentiers, ben, ça donne beaucoup d'énergie. Puis évidemment, après, on sait qu'il y a la famille qui sont là maintenant à des points spécifiques de la course qui vont apporter énormément d'énergie. Puis il y a des moments aussi où on est tout seul en nature. Il est minuit, on est au sommet d'un col et moi, c'est très énergisant aussi ces moments-là où je suis tout seul avec la nature, parfois qui me secoue un petit peu. Et voilà, donc tout ça, si on sait le ressentir, bah, c'est un beau cocktail d'énergie pour aller au bout le plus vite possible.
Tu me donnes une transition toute faite, c'est parfait. Battre des temps, justement, si on revient sur l'UTMB, et notamment l'UTMB 2022, qui a été un genre d'apogée absolu. Combien de temps tu mets à redescendre d'un moment comme celui que tu as partagé sur la ligne, ou même de la course d'ailleurs?
Pouah, c'est très long pour redescendre un truc comme ça. Déjà, post-course, je pense qu'on ne parle pas de douleur, on parle d'adrénaline là. Pendant une semaine, je ne dors pas. Impossible. La nuit, j'ai l'impression d'être hyper excité. Je ferme les yeux, j'ai des flashs. C'est quelque chose comme si j'avais bu 15 cafés avant d'aller me coucher. Et non, ça dure, je ne saurais pas dire, mais vraiment plusieurs semaines. Plusieurs semaines sur un high, sur un nuage, où on est comme dans un festival d'été, là, où on est trop bien, la vie est belle, on peut pas être malheureux, c'est que de la plénitude, c'est que du bonheur. Et ça prend du temps pour redescendre du nuage. Et ouais, je dirais 4, 5, 6 mois avant que ça calme. Puis il y a aussi toute la tension médiatique qui nous laisse percher sur le nuage, hein, parce que c'est sûr qu'ils nous mettent un petit peu sur un pédestal, ouais, c'est incroyable ce que ça fait, donc ça remet toujours une couche. Donc faut que toute cette attention là baisse pour qu'on puisse nous aussi faire je dirais un peu notre deuil de ce grand moment pour pouvoir passer à autre chose, parce que il faut aussi avancer dans la vie et faut pas rester là-dessus si on veut faire d'autres beaux défis.
Et ouais, justement, cette attention médiatique et cette ascension météorique dont certains ont parlé, ça change quelque chose, j'imagine, dans ta carrière. Il y a un avant et un après UTMB 2022.
Ouais, complètement, mais j'avais déjà eu une belle petite dose en 2021, mais c'est sûr qu'il y a un avant et un après. Voilà, ça peut être agréable, après ça peut être un peu moins agréable aussi. Voilà, mais ça fait partie, je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de la vie d'un champion. C'est l'attention médiatique qu'il faut savoir vivre avec. Il va y avoir des commentaires qui vont être positifs, des commentaires qui vont être négatifs. Il faut tout pour faire un monde. On vit aussi dans un pays de la culture de la jalousie et de la frustration. Heureusement que j'ai vécu aussi en Amérique du Nord, au Québec, pour être dans une culture de fêter le succès, ce qui est complètement différent. Donc j'ai appris à vivre avec. Et faut juste que ça prenne pas trop de place au milieu de l'essentiel, qui est de kiffer courir en nature dans ce qui est de plus simple. Et voilà, c'est ça aussi. Et puis je crois que notre sport nous permet aussi de réussir à sortir de ça rapidement et facilement. Voilà, on n'a pas une activité qui fait qu'on est en ville souvent avec beaucoup d'humains autour de nous. Quand on a envie d'être seul, on est seul dans la nature et on peut redescendre les pieds sur terre et éviter tout ce brouhaha qui peut avoir un impact, j'imagine, sur certains champions dans certains sports.
Tu nous as parlé donc de ton frère à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'était un super porte-voix, cette course-là. Est-ce que tu penses que typiquement un événement comme l'UTMB est important pour porter les valeurs telles que l'inclusivité ou les causes environnementales ou autres?
Ouais, c'est super important, et surtout l'UTMB, parce que aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a énormément d'événements d'ultra-trail, hein, tous les week-ends, mais ça reste la finale du Super Bowl, ça reste la course où il y a la plus grosse attention médiatique au monde. C'est là où il y a la plus grosse attention aussi du public néophyte, grand public, qui n'y connaissent absolument rien et qui ne pratiquent pas la course, qui suivent cette course. Donc c'est sûr que s'il y a des messages à faire passer à travers notre sport qui est le trail et l'ultra trail, ben c'est sûr que l'UTMB a une grosse voix. Donc quand on parle d'inclusivité, d'environnement, c'est sûr que c'est important d'avoir ces axes-là fortement présents au centre de la course.
Quel regard tu portes sur la course et son évolution dans les années à venir? Parce qu'on fête les 20 ans, mais c'est pas fini, il y a encore plein de choses à vivre.
Donc c'est difficile, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut... Il faut en tout cas rendre cette activité-là la plus accessible possible. Pas avoir un message qui soit trop élitiste, trop super-héros, parce qu'au final, en tout cas, moi, ce que je veux, c'est qu'un maximum de personnes kiffent autant que je kiffe. Et puis, c'est simplement s'activer un petit peu physiquement avec une petite paire de baskets en nature. Il n'y a rien de plus agréable. Et c'est sûr que voilà, le message aussi... d'inclusivité, on parle de handicap, mais on parle de monsieur, madame, tout le monde aussi, est très très fort. Et j'espère que nos courses de trail sauront prendre une direction, en tout cas sur leur message, leur rhétorique et leur manière de partager, qui est très ouverte.
Et du coup, on parle des 20 ans et des 20 ans à venir, etc. Mais il y a l'édition 2023 qui se profile. Je crois que tu es encore dans l'expectative d'une décision par rapport à cette participation. Je ne veux pas te poser la question, je pense qu'on en parle sans doute après la Western States que tu t'apprêtes à courir au mois de juin, mais tu as un feeling plutôt positif, plutôt... Voilà, comment tu veux en parler?
Ouais, moi j'aimerais participer à l'UTMB 2023, d'autant plus que c'est les 20 ans, j'imagine qu'il y aura une fête sympa, mais dans tous les cas j'y serai, course ou pas course, j'y serai parce que il va y avoir un tas d'amis qui vont courir la course, un tas de partenaires qui seront là aussi à rencontrer. Ça reste un grand rendez-vous où les belles rencontres qu'on a fait dans l'année sur d'autres courses finalement se font là. Maintenant, je veux aussi avoir une carrière longue et faire mon sport en santé. Et puis, je m'apprête à courir la Western States fin juin. Une course qui est majeure pour moi, donc où je vais mettre beaucoup de cœur dans cette course. Et quand je mets beaucoup de cœur, le physique suit aussi. Et donc, je ne peux pas prévoir. C'est assez court, ce combo-là. Il y a 2 mois entre les deux. Et puis, on ne sait jamais comment on va sortir d'un ultra. Parfois, en quelques jours, on est refait. Parfois, ça prend quelques semaines. Donc, c'est sûr que je ne prendrai pas le départ de l'UTMB si je n'ai pas pleinement récupéré. Et seule la magie du corps, de la récupération pourra le dire dans les semaines qui précéderont la course.
Ok. Quoi qu'il en soit, ce sera rendez-vous à Chamonix.
Dans tous les 15 ou à Chamonix.
Et c'est parfait alors. Et du coup, on en a fini avec cet échange. Je te remercie infiniment pour ton temps, ta simplicité, ta sincérité. C'était vraiment, vraiment excellent. Et du coup, je te dis à très bientôt. Et je pense au pire du pire, on soit dans les rues de Chamonix.
Merci, rendez-vous à Chamonix. Et puis si on ne court pas, au moins je pourrais fêter parce que je ne peux jamais fêter. Exactement. La semaine de la course. Il y a plein d'événements partout, tous les soirs pour chiner. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que je cours la course. Donc si je ne la cours pas cette année, je pourrais aussi profiter de cet aspect-là qui est génial.
J'aurai 2-3 adresses. À bientôt, Mathieu.
Merci, au revoir.
Je remercie encore Mathieu pour sa passion contagieuse. Après son impressionnante 7e place à la Western States en juin, croisons les doigts pour qu'il vienne nous surprendre une nouvelle fois fin août sur les sentiers de l'UTMB. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Glenné et Mélanie Pouey. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Mont Blanc et sur celui de l'UTMB World Series.